RMC.
Je pense que le fait de s'être craché de cette manière-là, ça nous a remis les épaules sur la tête.
On a attendu une fois la gifle, on va pas attendre la deuxième. Hein.
J'espère que la route va vite tourner pour lui et surtout pour nous, parce que ça, on en a besoin.
C'est vrai que pour le moment, je suis en train de profiter. Comme on dit, le malheur des autres font le bonheur des autres. Et pour le moment, je suis en train de profiter.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot. Jean-Christophe Drouet.
Bonsoir à tous, c'est l'Afterfoot, la seule émission de foot au monde que vous pouvez suivre à la radio sur RMC et à la télévision sur RMC Sport News en simultané, évidemment. L'After de 21h à minuit, comme d'habitude, et ce soir pour vous régaler, il est niçois, il est tunisien, mais lui n'a pas fait perdre son équipe ce week-end. François Manardo, salut François.
Bonsoir les amis, bonsoir. Ça fait plaisir de vous retrouver pour ce début de semaine. Voilà, je suis en forme.
Dis donc, t'es dynamique.
C'est trop. Là,
malgré l'élimination de ta sélection.
Oui. Bah écoute, hein, c'est comme ça dans le sport. Hein. Faut passer à autre chose. On va en parler peut-être tout à l'heure avec notre ami préparateur mental du gym ou ex préparateur mental du gym.
Non, préparateur mental.
Toujours,
du gym.
Toujours en place.
Exactement. Thomas Samut qui sera notre invité. Je vous en parlerai durant le sommaire. On va se régaler à partir de 22h avec lui. Il n'est jamais parti au bras de fer avec le Paris Saint-Germain. Bon, c'était pour rejoindre le Havre. Pierre Ducrot, salut Pierre.
Salut JC. Détrompe-toi, j'aurais pu parce que la Juve était intéressée. Et comme un idiot, ben j'ai dit non, je vais gagner les choses avec mon club formateur.
C'est vrai, beau, voilà. En quelle année ça?
Un an et demi après,
c'est beau,
on m'a demandé de partir du club.
Parce que t'as quitté le PSG en 2002. Donc ouais, c'était au début des années 2000, c'est ça?
C'était, je pense, de pas te dire de bêtises, c'était 99 ou 2000.
C'était Lippi alors à la tête du club?
Oh, je sais même plus.
Me dis pas que tu t'es fait doubler par Jocelyn Blanchard.
Ah, je sais pas si c'est à la même époque que Joss y va après derrière.
On va vérifier.
Moi, très vite si c'était destiné à être dans le rôle de Blanchard, c'est parce que quoi, il a joué 6 matchs.
Oui. Après, c'est.
Ouais, mais la Juve,
c'est jamais facile. Ouais, voilà. Mais non, mais moi, je. Enfin, pas de regret, parce que c'est moi qui ai décliné, qui n'ai pas voulu aller plus loin, parce que je voulais rester au Paris Saint-Germain. J'ai prolongé au PSG à cette époque-là, etc.
Non, parce que c'était pas Il
y avait même un petit fan club de créer pour que je reste au PSG, etc. Donc ouais, puis j'avais très envie de gagner des choses avec mon club formateur.
C'est Pierre qui m'en avait parlé et c'était pas avec Blanchard, c'était avec Capot.
Ah non, c'est après Capot, je pense.
Ah, ça, c'est toi qui m'avais dit que Capot, tu l'avais appelé et que
Olivier Capot.
Ousmane Dabo.
Mais Dabo, il est pas passé
qui
à la Juve.
Qui était en Italie. Je t'ai pas dit qu'il était à la Juve, je t'ai dit qu'il était en Italie.
Ah, ma mémoire me dit.
On était en équipe de France.
C'est mieux que moi.
En fait, on était en équipe de France de jeunes ensemble, toutes les catégories d'équipe de France de jeunes. Et c'est pour ça qu'à l'époque, je l'avais appelé pour avoir quelques petites infos sur le championnat italien, en plus de ce qu'on pouvait savoir, comme ça, en tant que professionnel jouant en Ligue 1.
Ça donne envie.
Il m'avait donné quelques infos, dont une où j'avais pas trop envie de prendre des pictures dans le cul, donc je m'étais dit je reste là.
Okay.
Il m'a pas dit s'il y avait dans les piqûres, hein, mais j'ai pas voulu le savoir.
Mais on a très bien compris.
Il y avait d'autres Français qui étaient à la Juve à ce moment-là.
De quoi?
Il y avait d'autres Français qui étaient à la Juve à ce moment-là.
Ah, je sais plus.
Pas beaucoup.
Vous pourriez retrouver l'année, beaucoup, mais pas encore. Non, mais pas encore. Je pensais après qu'ils sont arrivés.
Ok, en tout cas, ça fait plaisir quand on raconte une histoire à François Manardo. Tu vois qu'il la retient parfaitement. Et ça, c'est
ni les noms, ni les.
C'est tout à ton honneur, ni les clubs et tout. C'est Jean-Michel après.
Je me pose des questions sur la mémoire de. Non, mais bon, c'était. Moi, j'avais Capot, moi, en tête, moi, tu vois.
Ah non, parce que Capot, c'est bien après.
Oui,
c'est bien après moi.
Je vous propose qu'on passe à autre chose.
Oui, allons-y, parce que ça intéresse personne.
C'est pas une émission de bagnole. On va pas parler de Capot, bien sûr. Dans quelques instants, c'était il y a un an, jour pour jour, les Bleus remportaient leur deuxième Coupe du Monde de leur histoire. Que vous reste-t-il de ce mondial? Une image, un instant. Venez en parler avec nous au 32-16 à 21h30. Le retour de Neymar au PSG aujourd'hui. On vous racontera sa journée et son entretien avec Leonardo, supporter parisien. Neymar s'est-il grillé auprès de vous? Oui, non, évidemment, vous composez 32-16 et vous venez donner votre avis. À 22h, notre invité ce soir, on en parlait il y a quelques instants, Thomas Samut, qui est le premier préparateur mental salarié d'un club de foot en France, l'OGC Nice. Il vient de sortir un livre, Un cancre dans les étoiles. L'After a plein de questions à lui poser. À 23h, nous débutons ce soir notre feuilleton sur la finale de la CAN, Sénégal-Algérie, J-4. Avant ce grand rendez-vous, Omar Daf, l'international sénégalais de l'épopée 2002, sera avec nous dans cette émission, actuellement entraîneur de Sochaux, et puis à partir de 23h30, toutes les informations mercato du jour. Bref, un copieux menu ce soir. Appelez-nous au 32-16 pour participer à cette émission. Le hashtag RMC Live ou le compte Facebook de l'émission. C'est parti pour l'After. Il y a pile un an, le 15 juillet 2018, vous avez entendu ça sur RMC.
J'ai deux choses importantes à vous dire.
Ah oui, là.
Déjà, chapeau à tous, vous êtes sur le toit du monde pendant 4 ans. Vous emprunterez sans doute des routes différentes. Mais vous serez liés à vie par rapport à cette coupe-là, les mecs. Qu'à partir de ce soir, vous n'êtes plus les mêmes, les mecs. Vous savez pourquoi ? Champion du monde !
Il va chercher le point de pénalty. Ouais ! Il est signé Raphaël Varane de la tête sur un coup franc d'Antoine Griezmann.
Manzuki. On se transit, c'est Manzuki, mais on n'en a rien à faire. L'équipe de France mène 1-0 face à la Croatie.
C'est beau, hein. Putain, mais on réalise pas encore. Voilà, on est en train de kiffer, de passer un bon moment. Le vestiaire, voilà, c'est le bordel. Je m'en foutais si je marquais. Voilà, je marque, on est champion du monde. Donc voilà, c'est le rêve. Il y avait ma famille dans la tribune et ma petite fille. Donc voilà, je suis en train de rêver.
2-3 pas d'élan, la frappe de Griezmann, le contrôle qui est parfait. Ouais, ouais. De l'équipe de France, Antoine Griezmann.
Il a changé de côté.
Griezmann, 2-1 pour la France en finale de la Coupe du Monde.
Je demande si on est champion.
Tu crois qu'on est champion, Bob? Je sais pas.
En tout cas, on va rentrer en France et on va voir tout le peuple français. Là, on vous attend.
C'est pour vous. Hein.
Tous ceux qui écoutent, c'est pour l'équipe de France. On dit quoi? On dit merci.
Il a Pogba, la frappe de Pogba, elle est contrée une deuxième fois. Il va frapper du gol. Ouais.
C'est de la folie, j'y crois pas, on a fait. On a écrit notre nom, avec un petit stylo, mais on l'a écrit. Et là on reste à vie, et vous allez vous en rappeler. Et les enfants ils vont s'en rappeler, et leurs enfants ils vont s'en rappeler.
Taper la frappe à rouler. Mettre 4-1.
C'est un truc de fou parce que sincèrement c'était vraiment très très dur. L'équipe a été énorme, je sais pas, j'ai pas de mots pour ça. L'ambiance extraordinaire, ça m'a fait. J'ai jamais vu une équipe de France avec autant d'ambiance, autant de joie. Même aujourd'hui, on a dansé, on a chanté avant le match et ça c'est rare.
Lloris qui dégage et puis t'as la qui championne du monde en battant le Brésil 3-0. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied. Oh putain. Oh là 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 là. Oh, oh, c'est pas vrai.
Les frissons, hein. Les frissons, un an après, évidemment, plus de 20 ans après cette mythique phrase de Thierry Roland. On avait très envie de réécouter ce moment et c'est assez particulier parce qu'on ne l'écoute pas souvent, évidemment, on ne l'écoute pas tous les jours. Jeannot Restigui en commentaire, Jean-Michel Larqué et Jean-Louis Tour.
Celui-là qui nous laisse le plus de frissons ou d'émotions, ouais. Bizarrement.
Parce qu'on l'a vécu différemment.
Sûrement.
Avec un peu plus de spontanéité, un peu plus d'innocence aussi.
Ouais, peut-être.
Plus jeune, peut-être.
On est peut-être pas impliqué professionnellement aussi. Non, ça change peut-être aussi les choses.
Ouais. Mais il vous reste quoi de ce mondial? Quel est l'instant? Quelle est l'image? On vous attend évidemment au 32-16. Hein. Venez nous en parler.
Bizarrement, j'ai plein d'images des matchs, même des scènes de joie, etc. Mais l'image je sais pas pourquoi, qui me revient tout le temps le plus, c'est N'Golo Kanté. À l'Élysée avec sa maman assis sur les chaises, on a presque l'impression qu'ils sont
timides.
Ouais, qu'ils sont gênés d'être là et quand j'avais vu ça, j'avais eu les larmes aux yeux parce que je m'étais dit mais en fait ce mec est vraiment
hors du truc quoi. Il est vraiment à part. Alors pas à part dans un sens péjoratif, à part dans un sens exceptionnel justement quoi. Et j'avais adoré cette image où Paul Pogba vient les voir aussi, il embrasse la maman d'N'Golo Kanté. Enfin j'avais trouvé ça terriblement humain et ça faisait du bien, voilà.
OK, non mais ça fait partie des images de la Coupe du monde.
Ouais, c'est une image qui me reste gravée quoi.
Ouais, c'est pas forcément une image de match hein, ouais. C'est celle-là qui t'a touché en tout cas et que tu retiens un an après.
Moi c'est il y a beaucoup d'images aussi comme il y en a tellement et on pourrait pas nous en sortir une différente de celle des millions de téléspectateurs, auditeurs. Non, moi c'est une phrase. C'est un discours plutôt qui est né en 98 ni en 2018. C'est en 2010 pour la préparation à la Coupe du monde, Alain Bogossian, champion du monde en 98, qui était entraîneur adjoint de l'équipe de France, avait pris la parole devant les joueurs un peu avant le début de la compétition. Et il leur avait dit quelque chose qui m'avait marqué. Il leur a dit, écoutez, vous avez tout. Vous avez la jeunesse, vous avez la gloire, la célébrité, vous avez l'argent aussi. Et ben tout ça n'est rien comparé à ce que l'équipe de France, à ce que vous pourrez faire avec l'équipe de France, avec ce que l'équipe de France pourra vous donner si vous devenez champion du monde. Parce qu'il n'y a rien au-dessus de ça. Il n'y a vraiment rien au-dessus de ça. Moi, j'ai eu le malheur de connaître... ça dans le sens inverse, en tant que à l'intérieur, mais pas en tant que joueur, mais à l'intérieur.
Chef de presse, et notamment en 2010, on le rappelle.
J'imagine donc inversement proportionnel cette joie de 98 ouais. avec cette joie de 2018 et ce discours de Bogossian qui était très juste, très vrai. Pierre a été joueur professionnel. Je crois que tu as des sélections avec les espoirs.
À mon époque, il n'y avait plus les espoirs, il y avait les A-primes.
Si tu te rappelles aussi un petit peu. Primes,
ouais, c'était moi, c'était en A-prime.
T'as porté le coq, quoi.
Ouais, bien sûr.
Non, mais c'est. Il y a rien au-dessus de ça. Et les joueurs pros aujourd'hui, parfois certains trouvent que la sélection, ça peut être un tremplin et pas plus qu'un tremplin. Et en fait,
non, ils ont quoi. À ce niveau-là, c'est une apogée.
Tout faux.
C'est
l'apogée.
C'est une apogée du moment parce que ce qui est frappant aussi, on va peut-être en parler après, je sais pas, mais ce qui est frappant aussi, c'est que finalement, ça passe très très vite. On est déjà un an après la Coupe du Monde et il y a déjà tellement de choses qui se sont passées pour chacun d'entre eux derrière. Nous, quand on voit les images, on a les émotions, on a les frissons. Imaginons eux quand ils y repensent et quand ils entendent certaines chansons, certains sons, quand ils retournent dans certains stades peut-être, des choses comme ça.
Mais la fin de carrière, ça va les décupler plus encore.
Ouais, sûrement. Mais c'est surtout que ces garçons-là ont dû un mois après se remettre au boulot pour être performants. Et on a pu voir la difficulté que c'est pour ces garçons-là. Et pourtant, ils ont rien de, ils font rien de mal. Hein, mais la difficulté de remettre le bleu de chauffe avec son club et de retourner, d'être performant après, c'est très très dur et ça a été très dur pour beaucoup d'entre eux.
Bien sûr.
C'est pas juste que c'est un groupe de merdeux. Non, c'est compliqué derrière un truc comme ça de se remettre et d'être performant.
Tu fais descendre un pays dans la rue.
Ouais, c'est exceptionnel.
Quel autre.
Il y a rien, je pense.
Quel autre. Oui, si, ouais, la libération, mais bon, on va pas. Oui. on va pas passer par là, parce qu'on dire qu'on aurait été en guerre. Mais c'est le seul rapprochement. Hein. Alors. T'as 23 footballeurs avec un coach, ils font descendre un pays dans la rue, que tu sois en France, que tu sois au Brésil, que tu sois en Allemagne.
C'est irrationnel.
C'est irrationnel. C'est pas mesurable. Et pourtant, ça existe. Et le vif de l'intérieur, il n'y a pas de mots.
Je le pense, ça n'a évidemment rien à voir, mais je pense à ça quand tu parles de gens qui descendent dans la rue, je pense à la mort de Johnny. Où les gens sont descendus dans la rue. Ça n'a évidemment rien à voir avec cette Coupe du Monde, mais ce sont des moments comme ça.
À mon petit niveau, mais t'as raison de parler de ça, parce qu'à mon petit niveau, moi, ce qui me faisait le plus kiffer, et ça n'a jamais été de gagner beaucoup d'argent dans le foot, heureusement d'ailleurs, parce que j'en ai jamais gagné énormément. C'était les stades, moi. C'était les stades quand tu rentrais dans un stade, alors que ce soit à domicile où là t'as tout le monde avec toi, ou à l'extérieur où t'as tout le monde contre toi, c'est ce qui décuple ton envie, ta motivation, etc. Et je me suis toujours demandé ce qu'un artiste pouvait ressentir sur scène quand il est tout seul, lui. T'es pas une trentaine sur le terrain avec le staff, etc. T'es tout seul quasiment. Alors les artistes diront peut-être qu'ils ont des équipes derrière, mais face à la foule, t'es tout seul.
Ouais, c'est toi qu'on vient voir.
C'est toi qu'on vient voir et ce que tu prends dans le. Je me suis toujours posé la question si finalement les émotions dans le sport et dans un sport populaire comme le foot étaient plus fortes ou semblable ou moins forte
Pierre,
que celle d'un artiste sur scène et notamment un artiste qui arrive à soulever des foules comme un Johnny Hallyday ou
avec
autre
des artistes
que non, justement, voulu, non, justement, croiser, ou... non justement j'ai jamais posé la question
j'ai jamais eu l'occasion. J'ai posé cette question à quelqu'un qui est très connu, qui est un artiste, alors il remplit pas des stades hein, mais on va le voir au cinéma quand il fait des pièces de théâtre, les salles s'en comblent, et il adore le sport, donc ce qui lui permet un peu de comparer. Et évidemment, la grande différence, elle est où ? C'est que c'est écrit d'avance. Ouais. Quand c'est une pièce de théâtre, quand c'est un tour de chant, ouais, un concert,
t'as pas l'émotion de l'imprévisible.
Tu sais comment ça commence, tu sais comment ça se termine. Ouais. Alors que dans le sport, que ce soit un sport co, un sport individuel, je pense tout de suite à, évidemment, comme tout le monde, à la Jeux Olympiques. Tu sais pas comment ça se termine. Et cette émotion-là qui,
oui, c'est vrai,
qui t'échappe, mais sur lequel tu peux avoir un rôle, perdant ou gagnant. Ça, il y a rien de comparable.
Messieurs, je vous propose de faire une petite pause et ensuite on vous accueille au 32-16 pour que vous puissiez nous dire votre image, votre instant de cette Coupe du Monde. Et puis dans une dizaine de minutes, nous allons évidemment revenir sur cette première journée de Neymar au Paris Saint-Germain. A tout de suite dans l'After sur RMC.
RMC, l'Afterfoot, Jean-Christophe Drouet.
21h15, de retour dans l'after avec François Manardeau, Pierre Ducrot, Phil Good pour débuter cet after du lundi soir. Nous parlons de cette victoire des Bleus à la Coupe du Monde 2018. C'était il y a un an, jour pour jour. Nous sommes le 15 juillet 2019 et on vous demande comme ça, voilà, à la volée, s'il y a une image, un instant qui vous reste dans l'esprit après ce magnifique succès des Bleus. Manu, via le hashtag RMC Live, nous dit le but de Benjamin Pavard au deuxième poteau, évidemment. Sinon, on nous parle beaucoup de la cohésion de l'équipe, voilà, qui pouvait
Sans ça, t'as pas de titre. Hein.
Transparaître cette unité, cette joie de tous les joueurs et ces joueurs qui avaient plaisir d'être ensemble.
Ouais, sans ça, t'as pas de titre. De toute façon, je connais pas de groupe où, alors c'est déjà arrivé, par exemple, quand la RFA est champion du monde en 74, Breitner et Beckenbauer, c'est pas les meilleurs amis du monde. Mais là aussi, de toute façon, ils sont pas tous partis en vacances ensemble. Hein. Mais
ouais, il y avait quand même,
la cohésion, les liens, la confiance. Avec l'Euro 2016, Deschamps, même pas de 2014, Deschamps avait quand même réussi cette performance de créer un esprit club avec une sélection.
Et là, t'avais quand même l'impression qu'il y avait personne en dehors du groupe, quoi. T'avais qu'il y avait un vrai groupe. Mmh. Et effectivement, je te rejoins, sans cette cohésion, ça aurait été beaucoup plus dur, surtout dans le style choisi par Didier Deschamps, où à un moment donné, dans les matchs,
l'abnégation,
cette cohésion, cet esprit de groupe se ressent et est très utile pour aller au bout.
Antoine nous appelle au 32-16, qui veut nous parler des Bleus, évidemment, de cette date anniversaire. Bonsoir, Antoine.
Salut les gars.
Bonsoir Antoine.
Bienvenue dans l'After. Tu es le premier auditeur ce soir. Évidemment, on vous attend au 32-16. Hein. Venez nous parler. Venez nous dire votre émotion, votre sentiment. Qu'est-ce qui te reste, toi, lors de ce titre ?
Eh bien, cette semaine, l'air de rien, on a quand même fêté 3 anniversaires. On a eu les. Donc aujourd'hui, c'est les 1 an du Mondial 2018. On a eu les 21 ans du Mondial 98 et les 37 ans de la demi-finale 82. Donc bizarrement, donc tout ça la même semaine, donc c'est assez drôle parce que bizarrement, je sais pas vous, mais c'est peut-être que l'événement est assez récent, mais j'ai
moins
beaucoup
d'émotions.
Pas moins d'émotions, Pierre, mais j'ai beaucoup moins d'événements à ressortir du Mondial de l'année dernière. Franchement, je vais pas être original si je vous dis que la frappe de Pavard, pour moi, c'est vraiment le tournant dans ce Mondial. Pour faire simple, avant les 3 matchs de poule, on s'est fait chier. Le système de jeu, l'équipe, ça allait pas pour X raisons. La décision de Griezmann, les choix de Deschamps, les méformes physiques peut-être. Ouais. Et il s'est passé quelque chose déjà en début de match contre l'Argentine avec l'accélération d'Mbappé. Après ça, on se prend ses 2 buts, on est vraiment pas bien. Et le tournant de cette compétition, pour moi, c'est ce but irréel de Benjamin Pavard. Il va manger dessus toute sa carrière. Il en a même signé au Bayern Munich, François, pas de Munich.
Tiens, bim.
Non, c'est moi qui avais fait la remarque.
Ah d'accord. Je sais bien. C'est lui qui s'est trompé. Il va falloir qu'il apprenne d'ailleurs, hein, parce que ça passera pas dans ce grand club. Et à partir de là, tout, on devenait imbattable. Je veux dire, le quart contre l'Uruguay, la demi contre les Belges et la finale. Mais je sais pas vous, mais paradoxalement, moi en 98, tu peux citer la demi-finale contre la Croatie, la
finale
du but contre l'Italie, la frappe de Baggio, tu peux le but en or contre Chila Verte. Mais pour l'instant, c'est trop récent, j'ai pas encore de souvenir à, mais qu'est-ce qu'on s'est poilé.
Est-ce qu'on n'a pas les mêmes yeux aussi, peut-être? On a plus les mêmes yeux, peut-être, pour voir ça.
C'est possible. 42 ans, ça veut dire que la demi-finale de 82, France RFA, tu l'as pas vue.
Non, j'étais pas encore né.
Pierre, toi,
tu l'as pas vu. Moi, je suis 76.
Moi, j'avais 10 ans.
Non, vous avez vu
ce match ou pas?
Moi, mes premiers vrais souvenirs pour l'équipe de France, c'est 84. 86. C'est 84.
84.
Ah oui.
Et donc, et t'as 84 aussi avec
Laurent. Exactement. France, évidemment.
Exactement.
Antoine, tu n'as pas 42 ans si tu n'étais pas né en.
Non, mais j'avais acheté un très bon livre de Pierre-Louis Basse qui était Séville 82 il y a une quinzaine d'années. Oui, le DVD du match était offert avec. Ça m'a permis de le visionner plusieurs fois. Ça permet de se rendre compte que les défenseurs centraux à l'époque savaient techniquement faire des passes du pied gauche et du pied droit.
Ah ouais.
Que c'était un autre style de jeu, effectivement peut-être moins rapide, moins physique, mais que techniquement ça avait quand même de la gueule.
Bah ça va peut-être après, ça va peut-être avec. C'est que t'avais aussi plus de temps pour jouer quand même.
Peut-être, ou alors c'est une idée qu'on se donne. Je sais pas si on est nostalgique quand on pense ça, mais c'était un autre football. Enfin bon, là on dévient un peu du sujet. Pour revenir, François, juste magnifique citation d'Alain Bogossian en 2010, mais qui a pas servi à grand chose malheureusement.
Par contre, tu
disais, tu ne connais aucun groupe qui a été champion ou qui aurait pu peut-être l'être. En 2006, on n'a quand même pas été loin d'être champion du monde avec une équipe totalement désolidarisée de son entraîneur ou de son sélectionneur. Enfin,
c'est autre chose. Non. Mais Pierre et moi, on parlait et on y croit aussi très fort. Tu peux avoir un groupe où entre joueurs, tu as un noyau de leader et qui fait le lien avec un manager. C'est rare. Ouais, et je te rejoins complètement, qui est un peu détaché. Après, l'intelligence de Domenech en 2006, c'est que depuis la moitié de la campagne de qualif jusqu'à la finale contre l'Italie, il laisse les clés à Zidane. Il se met en retrait.
Il n'aurait jamais dû rester après 2006 dans ce cas-là, s'il était honnête avec lui-même.
On va pas vraiment faire le débat sur Raymond Domenech.
On voulait rester dans l'émotion.
Merci beaucoup Antoine d'avoir composé le 32-16 et on a bien compris que voilà, il n'y a pas forcément beaucoup de choses à retenir, mais tu as envie de retenir la frappe de Pavard.
Par rapport à ce que il a dit sur la demi-finale de 1982, France RFA. En revanche, je pense que l'émotion de ce match, que tu sois allemand ou français, il y a rien de comparable à ça. Moi, je peux pas dire France RFA, c'est en dessous de 1998 et du 3-0 contre le Brésil ou c'est au-dessus. Je peux pas placer ce match. Je sais pas, Pierre, si tu l'as vu.
Non, enfin oui,
je peux pas le placer.
Je l'ai revu, mais j'avoue ne pas. Enfin, tu vois, là, on c'est Antoine, c'est ça?
Oui, c'était Antoine.
Antoine nous explique qu'il l'a vu en DVD bien plus tard. J'avoue que c'est pas la même émotion que quand tu vis l'événement en direct.
Moi, le scénario.
Donc j'ai vu le match.
Tu sais que.
Ouais, voilà. Donc je l'ai revu le match. Je l'ai revu plusieurs fois. Même j'ai revu des séquences à part. J'ai vu des reportages. J'avoue que je ressens pas cette émotion. Je la ressens pas comme par exemple 84 sur certains matchs.
Tu ressens pas. Que quand Giresse marque le troisième but,
okay, on en est là.
Tu ressens pas que
si il y a quelque chose,
c'est fini, on est en finale.
On a l'impression quand on regarde la suite de la prolongation que non, ça va pas se passer, c'est pas
mais
possible.
Ça va pas se passer.
C'est vrai, tu as raison.
Oui, mais je ne ressens pas l'émotion que je peux ressentir sur les événements que j'ai vécu.
Oui, t'as été spoilé forcément. Tu connaissais un petit peu la fin. Pour revenir sur cette Coupe du Monde 2018, on nous parle des arrêts de Lloris. Il y a quelqu'un qui nous dit, il s'appelle Un P dans l'océan. Bravo sur Twitter qui nous dit sa philosophie.
Qui ça?
Non, il y a un problème d'orthographe. Bon, vous avez compris. À mort ce soir, vous auriez dû inviter BHL. Ça n'a rien à voir. On essaye de faire passer un petit peu d'émotion et tout ça.
Quel rapport?
On parle de ce qu'on a ressenti ou de ce qu'on se rappelle.
Je suis pas en train de réfléchir à combien de boutons je vais déboutonner à ma chemise pour. quel rapport?
Mais c'est vrai
le sport, c'est de l'émotion. Il a été joueur. J'ai eu la chance
chemise blanche quand même.
De près, pardon.
Oui, et puis t'as même pas besoin d'avoir été joueur, je pense, pour avoir les émotions sur des événements comme ça. Juste en les vivant.
Mais oui, aussi, tous les téléspectateurs.
Bien sûr.
Bon, s'il y a un match là que vous avez envie de retenir, c'est forcément France-Argentine. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas la Belgique.
Ça dépend pourquoi. Moi, le match où je me suis dit, on est champion du monde.
C'est la Belgique.
France-Belgique. Ouais.
Ah, c'est France-Argentine.
Ah, moi, c'est France-Belgique.
Je me suis dit là.
Tu fais un début de match qui est plutôt moyen où t'es bousculé etc et tu sens qu'on bouge pas quoi, on est quand même solide, on s'adapte très bien aux Belges, on a ce petit brin de réussite aussi qu'il faut, tu les plantes et ça leur fait très très mal quand ce match là pour moi il a été très très important. Alors je te dis pas que c'est celui qui m'a donné le plus d'émotion hein, parce que c'était pas du tout de l'émotion, c'était plutôt quelque chose de très froid justement en te disant on est dans la maîtrise quand même, on va aller au bout, c'est sûr.
Moi, c'est
le sentiment que j'ai eu.
Le France-Argentine, parce que quand on est mené 2-1, d'ailleurs, je pense qu'il y a peut-être une majorité de gens qui ont oublié qu'on a été mené dans ce match.
Non.
Quand on est mené 2-1,
ça a pas duré longtemps, mais
je sens que en fait on va gagner. Il peut plus rien nous arriver.
Tu sais quoi, François,
et après ça déroule.
C'est drôle que tu dis ça parce que je ressens la même chose. C'est-à-dire qu'évidemment après les phases de poule, on est un peu tremblant, on sent que l'Argentine ça va être compliqué.
Surtout qu'il y a le Danemark,
mais quand on voit la première période. Quand on prend le but, je me souviens très bien où je suis dans mon canapé, tout ça, et je regarde ce match, et je me dis, je suis même pas déçu, parce que je me dis, c'est pas possible, vu le niveau de jeu de la première période, c'est pas possible qu'on s'arrête maintenant.
Oui. Je me dis, ça, Pierre. Enfin, tu l'as vu aussi.
Mais carrément. Ça dure tellement peu de temps en fait qu'on a même pas le temps d'avoir peur en fait ou de se dire. Et je suis d'accord. C'est beaucoup d'émotions. Mais enfin, quand tu posais la question, si je me rappelle, un match qui m'a marqué.
C'est la Belgique.
Ouais, c'était la Belgique. Pas sur le plan émotionnel, mais sur le plan où je me suis dit, on va au bout. Ouais,
Frédéric nous appelle au 32-16. Salut Frédéric.
Bonsoir.
Bienvenue dans l'After. Alors, qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce que tu restes? Qu'est-ce que tu as envie de retenir? Qu'est-ce que tu as envie de nous dire ce soir?
Moi, je suis la même génération que vous, donc naturellement 98. Néanmoins, il y a un truc qui me fait penser que 98 est un peu usurpé ou trop bien vu. C'est qu'on a tous vu 50 fois les yeux dans les bleus. Et tous les souvenirs qu'on a de 98, la plupart, c'est les yeux dans les bleus. C'est pas les matchs d'avant, c'est les yeux dans les bleus. Les souvenirs qu'on a, les discours, les petites phrases, les petits gestes, les petites anecdotes. Ce qu'on n'a pas eu en 2018. Néanmoins, moi, quand je regarde les générations...
Si, et ce qui cache les matchs où t'as galéré quand même.
Ça, ouais, mais mon gamin et tout ça, moi, 98, même s'il a vu les images, ça l'a pas marqué. Par contre, il se souvient de toutes les actions et toutes les frappes, et tous les tirs et tous les buts et toutes les minutes. Pourtant, il a 10 ans de 2018. Mais il a pas eu son reportage qui lui fera souvenir pendant longtemps de toutes les coulisses et de tous ces trucs-là.
Alors pour le coup,
on n'a jamais égalé les yeux dans les bleus.
Si.
On fait tous souvenir dans notre génération la Coupe du Monde de 98 comme on l'a vécu et comme on s'en souvient.
C'est vrai, Frédéric, mais à chaque fois et à chaque épopée des Bleus, bon, il y en a pas eu beaucoup depuis 98, mais il y a eu un reportage un petit peu similaire. Sauf que notre œil et notre espace médiatique et le pouvoir que ça a pris a totalement changé. C'est-à-dire que maintenant, voir les joueurs dans un vestiaire ou à l'entraînement le matin d'un match, c'est plus si exceptionnel.
Mais exactement, alors qu'en 98, le premier reportage, on voyait
une découverte en 98.
C'était inédit.
Les phrases, tout le monde se souvient des phrases d'Aimé Jacquet sur Robert Pires, tout ça. Tout le monde se souvient de ça. Et même lui, il disait que ça avait marqué alors que c'était une phrase tirée de son contexte, machin. Mais tout le monde se souvient de ça parce que c'était le premier vrai reportage immersif. Oui. Aujourd'hui, il y a tellement de chaînes d'infos, il y a tellement de reportages, il y a tellement d'émissions qu'on en vit tous les jours et qu'on a plus d'émotions.
Exactement.
Et 98 était aussi le premier grand succès que toute une génération de nos parents nous avait suriné parce qu'ils l'attendaient, que nous, on attendait parce qu'on n'avait jamais eu de victoire à part l'OM en 93.
Il y avait aussi.
On attendait tout ça. 2018, on est déjà sevré un petit peu de titres de football international, de matchs de Champions League avec des niveaux exceptionnels.
Ouais, t'as totalement raison.
Des chaînes de en sport 80... qui font que des reportages dans les coulisses de tous les grands clubs et autres. 98, ce qui nous fait retenir 98, au-delà de la victoire exceptionnelle qu'on attend tous, c'est ce reportage.
Merci Frédéric, on est très pris rapidement. Et merci d'avoir appelé l'After.
En 1986, il y a aussi un reportage de... le nom de famille, c'est Dre. Je me souviens pas de son prénom, malheureusement.
Pas Julien.
Mais, ouais, c'est pas Julien.
Il y a un reportage sur les coulisses de l'équipe de France. Pour ceux peut-être qui s'en souviennent de ma génération.
Avec des grands.
Michel Platini.
Alors moi, je me rappelle d'une grande.
Mais oui. Qui danse sur.
D'une grande tablée. D'une grande tablée aussi. C'est pas ce reportage où il y a une grande tablée avec les joueurs.
C'était Adolphe Dre.
Adolphe Dre, merci.
Merci Jimmy Brown.
La qualification contre le Brésil en quart. Alors, ça n'a pas eu le même format et le même retentissement que Les Yeux dans les Bleus, parce que ça va pas au bout.
Ça s'appelait dans le secret des bleus.
Dans le secret des bleus. Mais ça aussi, c'est un petit marqueur. Et Les Yeux dans les bleus, c'est un dépucelage.
Ouais, et je me souviens, après la finale, voir la bande-annonce à la télévision des Yeux dans les bleus, en se disant, mais qu'est-ce que c'est que cet ovni? En se disant, dans deux jours, ne manquez pas, vous allez voir tout ce qui s'est passé pendant cette Coupe du Monde.
24 heures après, je me souviens de Bietri qui on gagne la Coupe du Monde et qui dit, demain soir,
c'est vrai.
Un document exceptionnel.
Mais Stéphane Meunier montait au jour le jour, évidemment, celui qui a réalisé ce magnifique documentaire. Bon, voilà ce que l'on pouvait vous dire et ce que l'on avait aussi envie de vous dire sur les bleus. Ce soir, joyeux anniversaire à notre équipe de France.
Et oui,
champion du monde pour la deuxième fois.
Et bravo à eux encore.
Et voilà, l'After a voulu rendre hommage à sa manière à cette équipe de France. Nous allons reprendre évidemment le cours de l'actualité, le cours de nos débats, car dans quelques instants, l'actualité nous rattrape toujours. Neymar et sa première journée au Camp des Loges, toutes nos dernières informations. À tout de suite sur RMC pour l'After.
RMC, l'After Foot, Jean-Christophe Drouet.
21h31, c'est l'after jusqu'à minuit avec Pierre Ducrot, François Manardeau. Il y a quelques instants, nous avons parlé et nous avons évoqué ce magnifique souvenir des Bleus. C'était il y a un an, jour pour jour, le 15 juillet 2018. Alors j'avais passé ce petit tweet de notre ami Impé dans l'océan qui nous disait, dis donc, vous êtes en train de philosopher, vous auriez dû inviter BHL. Voilà, il se moquait un petit peu. Sachez qu'il nous a répondu après vous avoir entendu. Désolé d'avoir heurté la sensibilité de Pierre Ducrot et François Manardeau avec mon histoire de BHL. Ils ouvrent leur cœur et moi je me moque. Je me sens gêné du coup. Cœur avec les doigts, les amis.
La classe.
Ben voilà, on l'embrasse.
Et notre sensibilité était un tout petit peu heurtée. Hein, ça va, on s'en remettait quand même.
Mais bien sûr, oui, mais, oui, c'est oui, vrai oui. Que voilà.
On... Hein, quoique en off, François était chamboulé quand même.
Bah, moi, ça c'est des émotions.
Il a une histoire avec l'équipe de France,
hein,
qui on le sait, ne s'est pas
bien
forcément
sûr.
Très très bien terminée. Donc forcément,
moi,
ça doit remuer quelque chose.
Enfin, qui a été dans le staff en 98 et 2018. Vous le connaissez tous, qui est Philippe Tournon.
Je te poserai une question après.
Et je le salue parce que j'étais il y a quelques jours avec lui encore et on a beaucoup parlé des Bleus.
Chevalier de la Légion d'honneur.
Oui, bientôt. Chevalier.
Mais justement, est-ce que tu ne poses pas la question pourquoi toi, quand t'es là entre deux, ça ne marche pas justement?
Tu sais qu'il faut. Tu sais, c'est comme quand tu fais une pièce
non,
de théâtre.
Non, mais il y en a une autre qui n'a pas marché sans toi.
Faut être avec les bons acteurs. Hein.
Ouais, non. Je plaisante de l'autre côté.
Il faut que le casting soit bon, monsieur Micro.
Très bon.
Mais moi, j'étais pas.
Tu y repenses ou pas?
Deux secondes. J'étais pas au top du casting non plus. Hein.
Non, mais tu y repenses ou pas à 2010? Ou jamais.
Non mais en fait
tout le temps. Ouais, c'est vrai.
En fait, toi, quand tu c'est monsieur Tournon hein, dont tu parles, voilà, qui était Philippe, avant et ouais. Philippe après, quand tu parles avec lui et que tu t'assois à table et que tu manges avec lui, tu dois te dire putain mais quelle chance t'as eu quand même. Moi je suis arrivé au moment où machin, j'ai loupé ça quoi.
J'ai gâté dans l'autre. Ouais.
Philippe carrément, quelle année?
Philippe, il a fait
2008, ouais, c'est ça.
Philippe, il a fait, il me le disait l'autre fois, il me dit mais avec sa faconde et puis sa présence, elle me dit, tu vois, moi j'ai tout. J'ai champion d'Europe, Coupe du Monde 98, 2018, deux Coupes des Confédérations, et il me dit même, et j'ai même la Coupe Intercontinentale de 85 contre l'Uruguay. À l'époque, c'était la Coupe Artemio Franchi, il y avait eu un match au Parc des Princes. Mais tu vois, j'ai tout. Je me dis, écoute, que Dieu te bénisse.
Et là, moi, j'ai rien. Voilà, qu'est-ce qu'il y a.
Moi, j'ai rien. En 2006, le chef de presse, c'est qui?
C'est Yann Le Guéard.
Ah bah oui, c'est vrai.
Ouais.
D'accord. Oui, c'est vrai que t'as vécu une mauvaise période.
C'est con, hein, mais...
Ouais, c'est con.
T'aurais envie de refaire un after spécial sur Nice Na 2010, ouais?
J'y pense... Pardon?
De refaire un after spécial sur Nice Na 2010,
si j'ai envie ou... Non, j'ai pas envie. Non, parce que je suis pas dans la nostalgie. C'est pas parce que j'y repense que je suis dans la nostalgie ou la rancœur, et encore moins la rancœur et le regret.
Non, mais toi, en plus, t'y peux rien.
Mais... Mais... Non, après... Tu sais, quand tu bosses dans le sport ou que tu bosses avec des sportifs, tu prends cette dynamique de allez, je passe devant moi. On arrête d'y penser.
Oui, bien sûr.
On passe à autre chose.
Ouais, non, voilà. T'es obligé, sinon tu joues le truc d'après.
Non, mais je te dis ça parce qu'on a forcément tous un regard différent sur cette période 2010. Un contraste, évidemment. On parlait de 2018 il y a quelques instants. Mais moi, je me souviens, je suis jeune journaliste.
Tu vois, là, déjà, ça commence à me gaver. Mais c'est pas toi, hein. Mais,
non, mais tu vois, je suis jeune journaliste et j'ai pu, mais à ce moment-là, ce week-end-là, avec cette grêle, tout ça, avec Franck Ribéry dans l'émission Téléfoot, j'ai vécu un week-end extraordinaire, mais comme évidemment tout le monde. Mais non, mais quand je dis ça, c'est au sens littéral du terme. Hein, il n'était pas merveilleux, mais c'est juste que quand tu apprends ton métier et que tu découvres ça,
c'est hors norme.
C'était hors norme, et c'était absolument incroyable. Et je n'en garde pas.
Mais c'était.
Je n'en garde pas.
Et tu veux que je te dise, non, mais c'est hors norme pour tout le monde et pour ceux qui sont footballeurs professionnels, mais qui sont pas en équipe de France, mais qui vivent la Coupe du Monde comme tous les étés, tous les quatre ans. C'est aussi hors norme. Tu te dis comment c'est possible? Il s'est passé quelque chose d'autre pour que ces mecs-là ne descendent pas de ce bus. Tu vois, tu te dis il y a quelque chose qu'on ignore. C'est pas possible qu'on en arrive là. Tu vois que ça aille aussi loin. Forcément, tu te dis il y a quelque chose d'autre. Et puis les journées passent, les mois passent. Puis enfin voilà, il y a rien eu de plus quand finalement. Enfin, en tout cas, nous on n'en sait rien quoi. Il y a rien eu de plus qu'une décision très grave et pas la bonne.
Oui, enfin la décision après, elle résulte d'une,
oui, d'une ouais, j'imagine.
Chaotique.
Ouais, j'imagine qu'il y a plus de choses
entre l'équipe de France et la fédération depuis pas mal de temps. C'est ce qui se passe en Afrique du Sud. Ouais, ça m'emmerde d'en parler. Je vais vraiment faire plus que très court. C'est un résultat.
Oui, c'est le tu veux dire que c'est la finalité. C'est la finalité juste. Ouais,
voilà. Tu vois.
Ce que nous on a en fait ce week-end-là, c'est juste la finalité de ce que vous avez vécu pendant plusieurs temps.
Pierre, c'était juste pour te montrer qu'en une demi-heure, on peut mettre les frissons à un mec. Ouais. Et une demi-heure plus tard, il a envie de se tirer. Bon, on va arrêter. Évidemment, mais voilà, la discussion. Mais je trouve que c'est sympa, la discussion nous porte. On est ensemble jusqu'à minuit. C'est aussi le principe de l'after. Et là, ça nous a porté vers 2010. Mais nous allons évidemment refermer cette parenthèse, car nous allons maintenant parler de l'actualité beaucoup plus terre à terre et le feuilleton Neymar, évidemment, qui se poursuit. Il était de retour du Brésil une semaine après la reprise du groupe parisien et Neymar a retrouvé donc le camp des loges aujourd'hui. Comment se sont passées les retrouvailles? On va poser cette question à Angie Loata de la rédaction RMC Sport qui nous a rejoint. Salut Angie.
Salut JC, salut à tous.
Salut Angie.
Alors ces retrouvailles?
Ces retrouvailles, elles ont été déjà matinales, hein, puisque c'est à partir de 9h10 qu'il est arrivé au camp des loges. Il est venu directement depuis l'aéroport, hein, Neymar, avec toujours le même van, le même chauffeur de son grand van noir. Il est arrivé donc au camp des loges. Son père, hein, n'a pas pris l'avion. Lui, il est resté au Brésil pour quelques jours. Neymar arrivé, il a passé 3 heures à peu près au camp des loges en tout et pour tout. Le club, on s'en souvient, lui a reproché de ne pas être revenu pour la reprise du groupe. C'était il y a une semaine, hein, la semaine dernière. Et donc c'est ça qu'on attendait en fait. C'était la rencontre avec Leonardo. Ça a été assez court. On pouvait s'attendre à une longue explication, etc. Mais non, ça a été assez court. Simplement quelques minutes pour lui signifier qu'il y aurait une sanction. Effectivement, il y aura sanction pour Neymar, mais d'une, qu'elle restera confidentielle, et de deux, que tout se passait bien en réalité. Le Paris Saint-Germain, tout au long de cette journée, a forcé dans sa communication, s'était forcé d'expliquer un peu à tout le monde qu'il n'y avait pas de problème, qu'il n'y avait pas de guerre, qu'il n'y avait pas de stress, que tout se passait assez bien finalement pour Neymar, qu'il revenait, qu'il allait avoir une sanction comme un joueur normal, et qu'elle resterait confidentielle, comme dans un club qui, allez, on va le dire comme ça, mais sait travailler. Demain, le joueur, puisque évidemment il est remis, puisqu'on l'a vu jouer au Five, mais il n'est pas complètement remis pour la compétition la vraie, donc il va poursuivre ses examens, il sera à l'hôpital, il restera quelques heures là-bas, en région parisienne, et ensuite il poursuivra sa préparation. Alors sur place, il y avait quand même quelques supporters, hein, qui étaient là, pas forcément pour l'accueillir à bras ouverts. En tout cas, quand on attend notre micro, c'était assez clair pour les supporters du Paris Saint-Germain. Neymar, va-t'en quoi?
S'il aime tant Barcelone, bah retourne-y. On n'a pas besoin d'un mec qui n'a rien foutu déjà en Ligue des Champions. C'est tout simplement foutu de la tronche de tout le monde, du club, des supporters. Il manque de respect de toute façon depuis qu'il est arrivé.
Il porte les couleurs du PSG maintenant, donc faut qu'il pense aux supporters. Nous, on l'a très mal vécu. Ça laisse un sentiment mitigé.
C'est pas bien ce qu'il a dit ce week-end, mais je pense que c'est mieux qu'il quitte le club avant que le championnat y reprenne. C'est un manque de respect envers l'institution, et l'institution, elle est toujours plus forte que les joueurs.
Et évidemment, ce supporter fait référence à cette phrase, cette interview dans la presse brésilienne. On lui a demandé son plus beau souvenir. Et parmi ses plus beaux souvenirs, il en avait deux. Il avait les Jeux Olympiques avec le Brésil, mais aussi la remontada face au Paris Saint-Germain avec le FC Barcelone. Alors, c'était soit prémédité, soit de la maladresse, soit c'était très franc. Comme le clan Neymar et l'entourage de Neymar dit non, mais il n'a pas voulu vexer les supporters parisiens. C'était juste de la franchise et ce moment d'histoire. Et on peut le comprendre. C'était un moment d'histoire. Mais à ce moment-là, c'était peut-être un
c'est
peu
franchement,
maladroit.
Parce que t'es dans la franchise, c'est franchement maladroit quand même.
Bon, en tout cas, voilà les sons de cloche que l'on peut avoir. Alors évidemment, on voulait vous poser cette question. Amis supporters parisiens, est-ce que vous avez envie qu'il reste, qu'il parte? Est-ce que vous pouvez lui pardonner ou non? Appelez-nous évidemment au 32-16. Quel est votre regard? Je m'adresse tout d'abord aux parisiens de la bande, Pierre Ducrot.
C'est tu te rappelles il y a un mois j'étais le premier à dire que tant que c'était que des rumeurs je voulais pas trop en parler parce qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient ou qui se disaient plutôt et que tant que moi je n'avais pas entendu Neymar s'exprimer ça m'intéressait pas finalement de me positionner parce que je ne savais pas ce qui était vrai et faux. Là aujourd'hui, il y a deux choses pour moi. Il y a le retard. Alors, il a beau dire que c'était prévu dans un contexte comme ça, tu te débrouilles. Je sais pas. Tu le mets à une autre date, ton gala. Tu fais ce que tu veux. Tu fais un aller-retour avec ton jet privé. Je sais pas. Mais t'es à la reprise et tu fais comme il faut. Et puis cette déclaration, si je peux comprendre que ce match-là soit pour lui un souvenir exceptionnel, je le comprends parce que c'est un match exceptionnel. Et quand tu te places de l'autre côté de la barrière, tu le vis forcément d'une manière exceptionnelle. J'ai pas d'autres mots. Donc que ce soit un de ses meilleurs souvenirs, je le comprends, mais sois juste un petit peu intelligent. Ne le dis pas maintenant. Alors, ce qui me fait dire que s'il le dit, moi je pense, j'y sais, que ce n'est pas juste de la franchise, que c'est quand même fait volontairement pour titiller, pour provoquer et pour créer encore plus quelque chose d'un peu malsain dans ce contexte actuel. Donc je suis partisan aujourd'hui. Soit d'être très clair avec Neymar à l'intérieur du club en lui disant tu vas revenir à ta place et t'en bouges pas, parce que si t'en bouges, tu vas être sanctionné, tu vas être sur le banc, tu seras traité comme n'importe quel joueur qui sort du rang, et d'être très ferme avec ça. Soit de le laisser partir s'il y a une offre. Mais comme je suis à peu près sûr qu'il n'y aura pas d'offre, parce qu'il va falloir trouver le club qui va vouloir prendre Neymar. Alors on parle de City, pourquoi pas, je veux bien aller, pourquoi pas. Mais sinon je vois pas trop les...
Avec entre le Qatar et...
Ouais, pourquoi pas, allons-y. Mais moi je pense que ces clubs-là vont réfléchir à deux fois aujourd'hui avant de prendre Neymar au tarif auquel est Neymar aujourd'hui.
Qatar, Émirats, on sait qu'il y a des divergences politiques, géopolitiques, donc ça risque d'être compliqué accord entre le PSG et Manchester City. Mais c'est vrai qu'en tout cas, selon nos informations, est-ce que laisse filtrer le Paris Saint-Germain, c'est que le PSG est prêt à garder Neymar. Et c'est ce qu'avait dit d'ailleurs Leonardo dans Le Parisien. Hein. On gardera Neymar, sauf s'il y a une offre évidemment conséquente et qui nous permette de nous asseoir à une table pour discuter d'un éventuel transfert.
Pour terminer, avant de laisser parler la parole à François, moi ce que j'attends aujourd'hui du Paris Saint-Germain, c'est qu'il soit très ferme avec Neymar en interne. Et qu'en externe, ils s'en occupent même plus du truc, quoi, finalement. Que ça devienne pas le feuilleton de l'été, qu'ils se concentrent sur leur mercato, qu'ils soient très fermes avec lui, et que si lui se met à bouder ou n'est pas content, qu'il le fasse dans son coin, quoi. Et que ça devienne pas le feuilleton de l'été pour le Paris Saint-Germain, parce que ça doit pas être le feuilleton de l'été pour le PSG.
Mais ton cœur de supporter, car c'est la question qu'on vous pose, hein, au 32-16.
Ah, ça va être compliqué de regarder Neymar avec les mêmes yeux. Je suis pas forcément d'accord avec ce qu'on dit notamment le premier supporter, il a rien fait depuis qu'il est arrivé, etc. C'est pas vrai. Il a fait des choses exceptionnel sur le terrain. Il a eu des périodes d'absence dues à des blessures au mauvais moment. Ça, je suis d'accord. On peut lui reprocher ou pas. C'est des blessures, je sais pas. Mais là, aujourd'hui, avec ce qui se passe, effectivement, si tu veux que je me positionne à la place du supporter, j'aurais beaucoup de mal à aller au parc et à kiffer Neymar aujourd'hui. Ouais. Ça va être beaucoup plus dur.
Ok.
Bah bon, il va falloir qu'il soit pas que très fort, mais très fort et très très humble à nouveau.
François, tu as voulu parler de 2010, donc on n'a plus le temps, parce que tu as absolument voulu parler de Coupe du Monde.
J'ai trop parlé.
Mais quel salaud, c'est noué. Je vais te donner la parole dans quelques instants. On va marquer une courte pause et dans quelques instants, avec Angie Luata, nous allons vous parler aussi de cette histoire de l'interview brésilienne qui devait sortir aujourd'hui. Mais les bandes ont été volées. Enfin, les bandes. Ça s'appelle plus comme ça, la cassette non plus. Voilà, les petites
cartes SD.
Les rushs, ce que vous voulez. En tout cas, ça n'existe plus. A pu Neymar qui se livre. Voilà.
Étrange.
Très étrange. On vous explique tout ça dans quelques instants. Ouais. L'avis de François Bernardo et appelez-nous évidemment au 32-16. Ouais. A tout de suite sur RMC.
RMC. L'afterfoot. Jean-Christophe Drouet.
21h47, toujours avec Pierre Ducrot, François Manardo. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit. Oui.
En off, on peut parler de indéfiniment de 98 et de 2018.
Hein. Ah oui. Exactement.
Là, on peut en parler justement.
Mais vous savez quoi, si vous voulez, à minuit, on reste et puis on continue d'en parler.
Allez. Non, à minuit, non.
Allez. Pourquoi? Ah voilà, monsieur n'est plus payé après minuit.
Mais quel petit. Qu'est-ce qui est complètement fou? Il est payé double après minuit.
En plus, on se connaît depuis quoi?
Non, je me lève très tôt demain matin. Voilà, t'as la raison. D'accord. Sinon, je serais resté avec plaisir.
Mais tu sais que je t'aime,
avec
François.
Avec plaisir, non, depuis, je serais resté.
Depuis longtemps.
Pierre, JC, je serais resté avec vous avec plaisir après minuit.
Ok.
Une autre fois, François.
After de l'after.
Ok, bah écoute, un bon concept ça. Attends, je vais commencer à écrire là, je vais vous laisser parler, puis je vais écrire ce concept.
Est-ce que ça devient pas un before du coup? L'after de l'after.
Ah, le before de l'after du lendemain.
Tu sais, le moins plus moins qui devient.
Et moi, ça,
plus,
je chèque, monsieur
Ducrot. Ok, bon, on y réfléchira plus tard.
Voilà, en déroulons, plus, déroulons, Jimmy Brown, notre producteur, est en train de me dire vous êtes gênants, les copains, donc passez à autre chose. Il n'y a aucun problème. Merci de ton soutien, en tout cas, ça fait plaisir. On parlait et on continue de.
Alors, j'ai mon avis sur Neymar.
De Neymar, évidemment, qui a repris avec le groupe parisien aujourd'hui, une semaine après avoir séché l'entraînement. Bref, vous connaissez le feuilleton par cœur, on vous a donné les dernières informations il y a quelques instants, on va également vous parler de cette histoire, de cette vidéo, de cette interview que l'on ne retrouve plus dans un média brésilien. À partir de 22h, Thomas Samut sera avec nous, préparateur mental, c'est le premier d'ailleurs préparateur mental salarié d'un club de foot en France, l'OGC Nice, et il a sorti un livre, il viendra nous en parler longuement dans quelques instants. À partir de 23h, Omar Daf, l'ancien Sénégalais de l'épopée 2002, sera notre invité pour évidemment évoquer la finale de la CAN entre le Sénégal et l'Algérie. Mais donc Neymar, François.
Moi j'ai écouté religieusement Pierre et je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit Pierre, mais il y a un détail, c'est que tu as mis un si à un moment donné en disant voilà, si tu mouftes, si tu sors d'une case, là tu recevras le coup de bâton, tu auras le retour de manivelle. Je me demande par rapport à la situation déjà où nous en sommes aujourd'hui entre le retard, on l'a dit, la déclaration à l'occasion de son tournoi sur son meilleur souvenir, cette interview qui était sous embargo avec Bandeirantes, la télévision brésilienne, qui a mystérieusement disparu, peut-être qu'elle contenait des choses
qui auraient
encore aggravé sa situation. Ceci, est-ce qu'il n'est déjà pas trop par rapport à la relation que ce joueur aussi a motivé à développer avec son employeur.
Il y a la petite vidéo aussi qu'il a diffusée sur les réseaux sociaux.
Maintenant, il y a une réalité que Pierre aussi a très bien résumée, c'est que le PSG, indépendamment de l'autorité dont il doit faire preuve, et puis là, on est aussi dans une période faste pour Leonardo, il est dans ses 100 jours en quelque sorte, mais il est un peu bloqué par cette situation de transfert, parce que qui peut se mettre à table, proposer à Neymar, au PSG, pardon, un montant que le PSG serait susceptible d'accepter, en mettant quand même des joueurs dans la balance, hein. Moi, c'est la seule version que j'accréditerais.
Et sans que ça lèse le Paris Saint-Germain dans son mercato.
Sont bloqués. Si Neymar est pas trop con, ok, ça passe ça.
Ouais.
Et ben, il doit comprendre avec son clan que là, oui, on lui tend la main et c'est vraiment la dernière fois qu'on la lui tend. Après, la relation avec les supporters, moi, les amis, et là, je pense que vous serez d'accord avec moi.
Ah, ça va être très compliqué.
Il part très loin, notre ami.
Non, ça va même être compliqué. Le retour au parc va être très compliqué, moi, je pense.
Place aux supporters, donc, dans l'after, avec Arthur, tout d'abord, supporter du PSG. Bonsoir, Arthur. Bienvenue dans l'after.
Bonsoir, l'after. Bonsoir, Jean-Christophe. Bonsoir, François. Bonsoir, Pierre.
Bonsoir, Arthur. C'est Arthur Robert, ça, non?
Non, pas du tout. Arthur Robert,
j'ai cru que c'était aussi le programme à Madagascar en train de fêter la CAN.
Arthur, est-ce que tu es capable de pardonner à Neymar? Est-ce que c'est réconciliable? Pas forcément.
Pas du tout. Alors, pas du tout. C'est impardonnable tout ce qui se passe depuis de nombreux mois avec Neymar, notamment ces derniers jours. Pour moi, Neymar est en train de gâcher sa carrière. Et c'est de pire en pire. Certes, c'est un peu dû à son entourage, aussi bien son père que l'ancienne direction du Paris Saint-Germain qui le laissait faire ce qu'il voulait. Il s'est de plus en plus déconnecté du football. Et ces déclarations, moi, récemment, ne m'ont même pas surpris, en fait. Ça peut paraître bizarre, mais ça m'a même pas surpris. Je savais que le divorce est consommé entre Neymar et le Paris Saint-Germain. Je pense que les supporters parisiens, le public du Parc des Princes ne peut pas pardonner à Neymar ce qui s'est passé, parce qu'en plus il n'a rien fait avant qui ait marqué le club et le public. Alors oui, il a fait ses matchs en Ligue 1, il a des stats, il a des très bonnes stats, il a même fait quelques bons matchs de poule en Ligue des Champions, mais ça les supporters s'en moquent. Donc pour moi, Neymar est en train de foutre en l'air sa carrière, et je pense même. Alors, Daniel Riolo disait beaucoup dans vos dernières émissions que 2019 sera une année sans football pour Neymar. Alors, non seulement je suis d'accord avec ça, mais moi, je vais aller plus loin. Et je pense que Neymar ne s'en remettra jamais de ce qui se passe et qu'il ne retrouvera jamais son niveau de Barcelone à l'époque de la MSN avec Messi et Suarez, même s'il retournait à Barcelone cet été.
Okay. Ouais, moi je serais pas aussi
non mais c'est pas
péremptoire, en tout cas si c'est pas péremptoire, pardon,
catégorique
parce que
ou c'était pas péremptoire,
parce que le, catégorique parce que on sait jamais ce qui peut se passer. De toute façon le talent se joue.
Non mais c'est pas interdit de penser comme ça.
Il a oui, c'est pas interdit si tu veux, mais là vraiment il est enterré, il y a la croix, il y a la couronne de fleurs. Le talent de ce garçon voilà, c'est un martien. Donc il a le droit de montrer de nouveau ce qu'il peut faire dans un autre club, et il sait le faire. Après il faut vraiment qu'il se remette l'esprit à l'endroit. Ça fait depuis 2 ans, entre les 15 000 tonneaux qu'il faisait au sol dès qu'on les fleurait, même s'il en a pris des tampons, ok, mais entre ça, entre ses déclarations, entre l'affaire de viol présumé,
ses absences pour blessure, qui compte là-dedans.
Il est en train, oui, là où je rejoins notre auditeur, il est quand même en train de mettre un sacré coup de canif dans sa carrière.
Bon, merci Arthur d'avoir composé le 32-16. On va accueillir Tariq maintenant, également supporter du Paris Saint-Germain. On vous pose cette question ce soir dans l'after. Bonsoir Tariq.
Oui, bonsoir tout le monde.
Bonsoir Tariq.
Ça va?
Bah écoute, on va très bien. Merci d'être là. Bienvenue dans cette émission avec François Manardeau. Pierre Ducrot, réconciliable ou pas?
Comment?
Réconciliable ou pas avec Neymar, les supporters et Neymar?
Mission très très, vraiment très très compliquée. Pas mission impossible, mais mission ultra compliquée pour Neymar et surtout pour Tuchel. Parce que moi j'ai l'intime conviction qu'il retournera pas à Barcelone. Parce que même si par rapport à ce que t'as dit François, que l'une des seules solutions c'est d'inclure des joueurs, quand t'entends Coutinho qui dit un non catégorique pour un aller au PSG, Dembélé aussi, je vois aucun joueur accepter de quitter Barcelone en échange de Neymar. Et pour moi, j'ai l'intime conviction qu'il n'ira pas au Barça.
Alors, je te réponds juste sur une chose, pardon, c'est que Thiago Silva et Zlatan Ibrahimovic en 2012. Ils étaient catégoriquement opposés au fait de quitter le Milan AC. Hein.
Mais c'était une autre situation, le Milan.
C'était une autre situation.
C'était limite, ils rendaient un service au Milan AC. Là, le Barça, ça reste encore une équipe très compétitive, avec des recrutements de malades qu'ils ont fait avec Griezmann, De Jong, etc. C'était une autre situation, là, c'est Milan.
Je te rejoins là-dessus. Mais sur la volonté des joueurs de ne pas quitter le club, tu seras d'accord avec moi.
Oui, bien sûr, oui, je suis d'accord avec toi, mais je trouve quand même que à 80% pour moi, c'est une mission impossible pour le transfert.
Ok, mais toi, tu vas au Parc des Princes, tu vois Neymar, comment tu réagis? Est-ce que tu peux lui pardonner? Qu'est-ce qu'il doit faire pour que tu lui pardonnes? Tu vois, on est aussi là-dedans.
Bah, en fait, le problème, c'est que demain, je vois pas Neymar commencer la saison, mettre un but, embrasser les puissants du PSG, ce qui pourrait faire endormir un petit peu les supporters, etc. Je vois pas faire une déclaration d'amour au club, à dire que j'ai jamais voulu partir, j'aime le PSG, etc. Pour moi, le seul truc, c'est s'il nous fait franchir, s'il reste, il nous fait franchir un palier, le palier des huitièmes, quart de finale, demi. Là, je pense que les supporters pourraient, entre guillemets, lui pardonner et un petit peu oublier ce qui s'est passé, ce qui se passe cet été. Mais à part ça, je vois rien d'autre.
Ok, voilà, rapidement, François.
Ouais, moi, j'ai une question à poser à Pierre, à vous poser à tous. Ok, on met de côté le fait que si Neymar part, il faut qu'il y ait des joueurs qui arrivent en compensation parce que très peu, voire personne, va mettre 250 millions ou plus sur la table. Très bien, d'accord. Il reste au Paris Saint-Germain. Est-ce que vous croyez, est-ce que Pierre, est-ce que tu crois que ce garçon, aujourd'hui, peut changer dans son comportement?
Non, j'ai de plus en plus de mal à le croire.
Parce que c'est ça l'enjeu. Paris Saint-Germain a un patron.
Il y a encore un mois et demi où je me disais peut-être que Neymar va rentrer dans le rang, il va comprendre à un moment donné que ça doit venir de lui et qu'il doit changer.
Alors,
un petit peu.
Alors, s'il ne change pas, Pierre, qu'est-ce qui se passe?
Bah ouais, ça va être compliqué. Ça va être
de blocage.
Bah ça va être un bras de fer, et c'est pour ça que tout à l'heure j'avais terminé en te disant que le bras de fer il doit être vite terminé, c'est-à-dire que tu restes là où t'es si t'es pas content, tu boudes et basta quoi. Mais ça doit pas devenir le feuilleton de l'été. On doit limite lui dire ce qu'on a à lui dire et ensuite l'ignorer.
On remercie Tariq d'avoir composé le 32-16. Merci Tariq, à bientôt dans l'after. Tu nous appelles quand tu veux, évidemment. Continuez de nous appeler, supporters parisiens. On va reparler encore un petit peu de Neymar dans quelques instants, car il y a cette histoire de la vidéo volée que l'on ne retrouve plus, cette interview qu'a donné Neymar à un journaliste brésilien. C'était la semaine dernière et elle devait être diffusée aujourd'hui, mais visiblement ce n'est plus possible. Pourquoi? Est-ce que vous avez un scénario? On va demander évidemment à l'ancien chef de presse des Bleus qui met maîtrise parfaitement la communication. Ouais, c'est passé un truc pour enlever cette vidéo. Bon, on en parle dans quelques instants. À tout de suite sur RMC.
RMC. L'After Foot.